Vous écoutez Oleti, épisode numéro 52. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Antoine Auriol, ancien champion de kite reconverti en reporter navigateur. Bienvenue sur Oleti, le podcast 100% glisse, océan et motivation. Je suis Sarah Hébert, ancienne championne de windsurf, pionnière du stand-up paddle yoga en France. Après 5 années à sillonner les mers du globe en voilier avec ma famille, j'achève ce fantastique voyage qui me ramène à mon caillou natal, la Nouvelle-Calédonie. J'ai créé Oleti pour te partager ma philosophie de vie, ma capacité à croire en mes rêves, même les plus fous, et ce besoin insondable d'être connecté à l'océan. En solo ou à deux, je partage le micro avec des femmes et des hommes inspirants qui vivent leurs rêves bleus contre vents et marées. Alors si comme moi, tu crois qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans le précédent épisode, je te donnais les raisons pour lesquelles notre voyage en voilier se termine. Si tu veux le réécouter, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. L'invité de cette semaine est une connaissance de longue date, c'est avant tout un des meilleurs amis de mon petit frère Tom Hébert, champion de freestyle de kitesurf lui aussi. J'ai connu Antoine lorsqu'il était sur le circuit mondial en kite. Ce que moins de gens savent, c'est qu'Antoine, avant d'être champion de kite, a été champion d'Europe en planche olympique à 19 ans si je ne me trompe pas. Mais sa vie a véritablement basculé lorsqu'il a découvert le kitesurf. Cette discipline continue de guider son destin. Entre médiaman pour les courses au large et présentateur télé, Antoine Auriol est toujours en quête du vent. Antoine, c'est la liberté incarnée. Il se fout des chemins tracés et dessine sa vie comme il l'entend. Je me sens très proche de lui, de toi Antoine, par nos modes de vie. Alors forcément, après tant d'années et de beaux projets réalisés, j'avais hâte de l'inviter au micro d'Oleti. Antoine, bienvenue et Oleti, comme on dit en Calédonie, merci d'être avec nous.
Merci à toi Sarah, très belle présentation. C'est vrai qu'on a pas mal de points communs et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, donc je suis ravie d'être ici.
Ça c'est clair. Alors avant qu'on plonge dans le vif du sujet, dans les détails de ta vie salée, j'en profite pour passer un petit message et pour parler d'un super projet que je propose du 1er au 4 septembre 2023. C'est une retraite de stand-up paddle et de yoga sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. 4 jours d'immersion en pleine campagne tropicale pour ralentir, se connecter à sa nature au sens propre comme au sens figuré. On va être accueillis en tribu dans une des plus belles vallées de la côte est, descendre une rivière en paddle, découvrir le stand-up paddle yoga, pratiquer quotidiennement le yoga, la respiration, la méditation, manger local. Bref, je ne vais pas plus vous spoiler sur le programme. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre la liste d'attente de cette retraite que j'ai nommée « Retour aux origines » et vous comprendrez bientôt pourquoi. En vous inscrivant à cette liste, vous serez les premiers informés parce que oui, les places sont limitées. Donc, premier servi, premier inscrit. Voilà. Antoine, le yoga, le stand-up paddle, il me semble que ce sont des activités que tu pratiques. Qu'est-ce qu'elles t'apportent ?
Ouais, déjà, avant de commencer, c'est vrai que ça donne envie ta petite retraite. Ça me ferait du bien. Ça me ferait un bien fou actuellement. Et le yoga, j'ai commencé il y a une dizaine d'années maintenant pendant un voyage aux États-Unis. J'ai fait un premier cours de yoga comme ça à New York et ensuite en rentrant, j'étais déjà piqué par les sensations du yoga et un autre ami qui rentrait d'Asie. Donc du coup, c'est les États-Unis et l'Asie qui sont rejoints en Europe. Et un ami m'a vraiment dit, il faut que tu fasses du Ashtanga yoga, tu vas voir, c'est vraiment pour toi. Je pense que ça va t'ouvrir l'esprit, ça va aligner ton corps, ça va t'assouplir, être renforcé. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer en regardant des vidéos et en suivant une vidéo notamment qui tournait en boucle chez moi tous les jours. Et c'était des sessions d'une heure et demie. Et en fait, pendant un an, j'ai commencé à apprendre complètement la série d'Ashtanga Yoga, la première. Et ensuite, pendant presque 6 ans, je m'y suis mis vraiment 4 ou 5 fois par semaine. Et j'ai un peu lâché depuis une année ou deux avec tous les projets qui me sont tombés dessus. Mais en fait, c'est une activité, c'est plus qu'une activité, c'est un lifestyle que j'ai envie de reprendre là parce que, en fait, une fois que tu y as goûté et que tu as vraiment progressé, que tu as pris le temps de voir les bienfaits que ça a sur toi, autant au niveau de la respiration que de l'assouplissement de ton corps et de ton esprit, parce qu'en fait, c'est vraiment lié, c'est quelque chose qui t'embarque aussi dans une routine. Et c'est un truc que j'ai un peu perdu en ce moment parce que moi, du coup, la routine, j'en ai plus là depuis 2 ans et demi avec les projets bateaux dans lesquels je me suis lancé. C'est très bien, j'ai accéléré, j'ai fait plein de choses, j'ai découvert le monde un peu à grande vitesse sur l'eau. C'est un peu paradoxal. Mais là, j'ai besoin de, tu vois, je suis chez moi en Espagne, je retrouve un petit rythme et j'ai envie de m'y remettre. J'arrête pas de le dire autour de moi, il faut que je me remette au yoga parce que ça va me recaler, réancrer un peu, ça va m'enraciner. Et après avoir été autant un peu partout aux quatre coins de la planète, sans avoir un vrai rythme avec aussi, tu sais, à manger un peu, pas n'importe quoi, mais sans avoir une vraie routine bien tranquille aussi au niveau de l'alimentation, c'est quelque chose là qui m'attire vraiment de nouveau énormément. Et je sais qu'il y a une époque, là je parle beaucoup, mais l'époque où j'en faisais 5 fois par semaine, j'avais pas beaucoup de projets à cette époque-là, j'essayais de développer tous mes projets télé, tout ça. Et je savais qu'en fait, en étant juste bien à l'intérieur de moi-même, avec le minimum, je savais que j'avais une base qui était hyper forte. En fait, je savais qu'au pire du pire, si j'avais pas de projet, je me sentais hyper bien à l'intérieur de moi-même. Donc en fait, déjà, après, dès que tu fais un truc, c'est du plus. Et c'est ça, en fait.
C'est très fort et c'est très important ce que tu dis là, c'est trouver cette sécurité intérieure. Au lieu de courir après une sécurité matérielle, financière, professionnelle qu'on trouve pas toujours ou qui est toujours éphémère.
Oui, exactement. Du coup, ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment le plus aimé dans la pratique du yoga, c'est cette sensation de bien-être après chaque session et cette sensation de repos, de clean-up, de blanc à l'intérieur du cerveau. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment une espèce de couleur neutre, blanche, où tout est calme, tout est posé. Et après, tu prends des bonnes décisions, en fait. Du coup, là, tu vois, je suis encore un peu accéléré. Je le sens dans mon énergie. J'arrive vraiment d'un truc qui a été hyper intense.
Ouais.
6 mois autour du monde, c'était magique, c'était top. Mais en même temps, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et en même temps, j'ai pas simplement fait le tour du monde sur le bateau. J'ai aussi fait des documentaires lors des stopovers pour la télé française. Et en plus, en arrivant, pendant les 6 mois autour du monde, j'ai organisé aussi l'événement de kite qu'on vient de terminer à Maurice et où j'ai revu ton frère il y a quelques jours maintenant. Il y a hyper longtemps. Du coup, voilà. Ouais. Donc le yoga, ça m'a servi à avoir de la force, à pouvoir accélérer comme je viens de faire maintenant. Mais là, j'en ai besoin. Il faut que je me recentre un peu sur juste mes sensations, mon bien-être, et après les projets vont repartir de plus belle. Mais en fait, tu peux accélérer quand tu décélères, et le moment de décélération pour moi, c'est les moments de yoga ou de session de kite ou de wing un peu tranquille comme ça, où j'ai vraiment un rythme tranquille, quoi.
Tout à fait. C'est trop drôle, je ne pensais pas qu'on allait plonger direct dans une conversation aussi spirituelle, mais comme quoi, quand on pratique le yoga, c'est vraiment un mode de vie, et dès qu'on s'en écarte, il y a quelque chose qui nous manque, quoi. La paix intérieure, le calme, c'est l'anxiété tout de suite qui peut remonter, la fatigue, etc.
Ouais.
Alors, avant de parler de tous ces projets que tu viens d'effleurer, j'aimerais qu'on fasse un grand, grand retour en arrière et que tu me parles de ton premier lien à l'océan.
Mon premier lien à l'océan, ce qui est fou, c'est que c'est plutôt un premier lien avec un lac dans les Ardennes, parce que j'ai grandi dans les Ardennes. Enfin, ma mère est allemande, mon père est français, on est 3 frères et une petite sœur, mais les 3 frères, on est tous nés dans les Ardennes, autour d'un lac, où mon père gérait une base nautique. Du coup, pendant mes 4 ou 5 premières années, je voyais mon père qui donnait ses cours de voile, de catamaran et tout ça, mais sur un lac. Et moi, je faisais mes siestes dans son zodiaque pendant qu'il donnait ses cours d'optimiste. Et je pense que là, inconsciemment, on a déjà eu... Enfin, il nous a planté la petite graine, notre père et notre mère aussi. Je dis « nous » parce que c'est les 3 frères et on a tous en commun cette passion pour l'océan. Tu vois, cet après-midi, je viens de naviguer, j'étais avec mon frère Nicolas, le grand frère, et on vient de faire 3 heures de wing ensemble, et c'était magique. Et du coup, ensuite, après la Bretagne, les Ardennes, on est parti dans dans le nord Pas-de-Calais. Et là-bas, j'ai plus fait de la gymnastique et du trampoline, que j'ai ensuite continué à faire quand je suis arrivé en Bretagne à peu près à 10 ans. Et c'est en Bretagne où là, vraiment, je me suis ouvert sur l'océan, et notamment grâce à une super rencontre, mon premier prof de planche à voile, Pierre Gobert, que je nomme tout le temps, que je cite et qui m'a vraiment inspiré parce que lui, il nous a appris à lire les éléments, à vraiment faire de la planche à voile de manière fun tout en étant carré en même temps. Et du coup, c'était magique avec lui d'apprendre. C'était comme un jeu, mais en même temps, il savait être un peu carré quand il fallait. Donc, avec la Mistral Olympique, ça nous a donné de super bases avec toute la petite clique qu'on avait à l'époque. On a fait un peu le Tour de France pour les Coupes de France, tout ça. Et petit à petit, en fait, le niveau a monté. Et on est parti sur les championnats d'Europe, championnats du monde au Mexique. Et tout ça, ça m'a déjà donné l'envie d'aller encore plus loin et de voyager encore plus. Et juste à cette époque, le kitesurf est arrivé. Et c'était un mélange exactement parfait qui me correspondait parfaitement parce qu'en fait, il y avait l'acrobatie de la gym et du trampoline. Et les connaissances de la mer et des éléments et du vent qui se regroupaient, et tout ça dans un seul sport. Du coup, j'ai accroché direct et j'ai dû faire un choix entre la planche olympique ou le kite pour vraiment faire une chose et bien. Et j'ai choisi le kitesurf et après, on est parti un peu partout aux quatre coins de la planète et notamment à Nouméa. Moi, quand je voyais les images de Nouvelle-Calédonie dans les revues, ça me faisait rêver et je me disais, mais comment est-ce qu'un jour je vais pouvoir voyager à l'autre bout de la planète pour faire un truc que j'aime? J'imaginais même pas que ça allait être possible. Et quand le kite est arrivé, ça m'a ouvert un monde et du coup, je me suis dit, j'utilise la compétition pour progresser et pour être au top du top dans le milieu du kite pour pouvoir aller dans tous les endroits qui ont l'air complètement dingues. Et grâce au kite, j'étais kité à l'îlot Nokanwi, que tu dois très bien connaître.
Qui n'existe plus.
Je sais.
Qui n'existe plus.
Ah, parce que du coup, il y a la marée qui est tellement... Enfin, pardon.
La montée des eaux. Donc, c'est juste un banc de sable qui a disparu sous la surface de l'eau, qu'on voit, qu'on devine, qui sort un tout petit peu à marée haute, basse. Mais,
Ah ouais, tu vois, en tout cas, c'est des souvenirs incroyables.
Tu auras connu ça.
J'aurais connu ça et... Et voilà, donc le kite, comme tu disais, ça a toujours été vraiment au centre de toutes mes activités depuis maintenant 20 ans. Et tout ce que j'ai toujours développé autour, tous les projets, que ce soit de la voile ou les projets télé ou simplement des voyages, il y avait tout le temps une part de kite à l'intérieur. C'est un pilier central autour duquel j'orbite et je ne veux jamais le lâcher, quoi. C'est trop important pour moi. Du coup, je me sens vraiment connecté à ce sport et c'est important d'avoir une passion, je pense, parce que ça te maintient sur une ligne, sur des rails, tu as un cap et du coup, en fait, tu sais que tu ne peux pas te perdre si tu le gardes tout le temps. Et après, tu vois, il y a des gens qui te disent, OK, les années compétition, c'est peut-être terminé pour toi, tu devrais arrêter. Et moi, jamais, je m'étais toujours dit, le kite en compète, c'est génial, mais je veux avoir 70, 80 ans un jour et toujours naviguer avec la même passion. Et si je continue sur cette route comme ça, en profitant de chaque instant, je pense que c'est ce qui arrivera.
Ouais, carrément. Moi, régulièrement, sur les spots, je regarde des gens qui ont, 70 ans, 80 ans. Je suis là, mais moi, je veux trop être comme ça quand je serai vieille.
Ah ouais.
Avec leur harnais, leur combi au taquet, toujours.
Ah ouais, parce que ça te maintient fit, en fait. Et puis, libre et jeune en même temps. Le petit enfant qu'on a à l'intérieur de nous, même si on est en train de vieillir, il est toujours là, toujours présent. Ouais. Il ne faut jamais l'oublier.
Ouais, c'est clair. Et donc, le kite, mais l'océan aussi.
Et l'océan, bien...
Comme passion.
Bien entendu, en fait, l'océan est complètement connecté. C'est peut-être même d'ailleurs l'océan d'abord et après toutes les activités. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on a la chance de faire ces sports au contact de la nature, au contact de l'eau, cet élément de l'eau qui te... Avec, et en plus, dans les océans, avec le sel iodé, ça te fait du bien à la peau, ça te fait du bien aux poumons, ça te fait du bien carrément à la respiration. Tout ça mélangé avec la force du soleil qui chauffe, qui crée les vents. Du coup, tu pars de la terre. Moi, je dis toujours que c'est un mélange de tous les éléments, finalement, parce qu'on part de la terre, on utilise le vent et l'eau pour se déplacer, et le feu intérieur, mais aussi le feu du soleil qui chauffe les océans et qui chauffe les terres et qui crée toutes les différences de température, du coup, qui fabrique les vents, finalement.
J'adore interviewer des gens aussi passionnés que moi. Et d'ailleurs, quand tu parlais de la thérapie de l'océan, ça m'a fait penser à Guillaume Baruc, qui est docteur, que j'ai interviewé sur Oleti, je ne sais pas si tu le connais. Il est docteur à Biarritz et il prescrit véritablement des séances de kitesurf, de marche aquatique, de surf. Et il a écrit tout un livre dans lequel j'ai participé pour la partie stand-up paddle, yoga et fitness, où il explique la physiologie et les intérêts d'une pratique en bord de mer ou dans la mer.
Je regarderai, ça m'intéresse. Mais c'est clair, en tout cas, moi, sans avoir étudié ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, tous les passionnés de voile, enfin de sport nautique ou d'océan en général. C'est vrai que c'est toujours une sensation de bien-être après avoir été au contact de l'océan. Je ne sais pas pourquoi. Même si la session, elle n'a pas été dingue, s'il n'y a pas eu beaucoup de vent, si tu n'as pas plané comme tu voulais, ce n'est pas grave, c'est secondaire. Rien que le fait d'y être allé, tu te recharges en fait. Et tu rentres et... Comme ils disent les Anglais, it makes your day. make your day.
Ouais, c'est clair.
Make your day.
Du coup, la compétition était pour toi plus un véhicule pour atteindre tes objectifs de voyage. Est-ce qu'en parallèle, tu t'es formé, tu as assuré tes arrières pour le jour où tu gagnerais plus ta vie en étant champion de kite? Parce que moi, je connais aujourd'hui ta reconversion, mais avant de parler de ta reconversion, je me demandais si tu avais fait des études. Voilà.
Ouais, en fait, j'ai fait des études. J'ai fait une fac de sport à Brest, en partie à Brest, ensuite.
Ah oui, comme moi.
Ouais, une licence.
Mais attends, on a le même âge, non?
Moi, je suis
84.
Ouais, pareil, 84, ouais. Même âge.
Ah ouais, c'est rigolo. Et on ne s'est pas croisés à... T'étais à quelle période? Moi, j'ai fait ma deuxième année de licence et mon master, début de master.
Non, moi, j'ai fait ma L1, L2. Donc, c'était les deux premières années après le bac à Brest. Ouais. Après, je suis parti à Cadiz pour faire Erasmus.
Ah oui, ok. Ben on s'est vraiment croisés. Ouais. Ah, c'est rigolo.
Après, je suis rentré une année où j'ai commencé un master management du sport à Poitiers. Et au premier semestre, fin de premier semestre...
C'est drôle.
Je me suis dit...
Moi, j'ai commencé à Poitiers mes études.
Ah ouais, non, mais on a fait un petit croisement. Et comment? C'est le chassé-croisé du mois d'août.
Ouais. Ouais, donc tu as commencé un master que tu n'as pas terminé.
Ouais, et en fait, après le premier semestre...
Moi aussi.
C'est fou. Je me disais, pourquoi je suis là, en fait, Laurent?
Ouais, mais moi, pareil, je me disais, mais en fait, ça ne servait à rien. Je bossais déjà pour une télé.
Ouais. Donc du coup, c'est pas que ça m'a servi à rien, j'ai quand même aimé ces années-là, mais je m'étais dit au cas où avec la licence, je crois que je pourrais être prof remplaçant au cas où de sport. Je crois que c'est un truc déjà que je pourrais avoir. Et ça a été mon mini petit coussin. Et je me suis dit, tant pis, je ne veux pas terminer le management du sport parce que je ne sais même pas trop ce que je veux faire. Je sais que je veux faire du kite. Et là, j'ai déménagé en Espagne parce que j'avais goûté à l'Espagne avec les années Erasmus, enfin mon année Erasmus. Mmh. Et c'était une base incroyable en Europe. Pour pouvoir voyager partout dans le monde et pour m'entraîner au soleil et puis pour apprendre une nouvelle langue. Et du coup, je me suis dit, allez, go, c'est parti. Et puis, ça a commencé comme ça.
Alors du coup, on va parler de la bifurcation que tu as prise. Comment c'est venu l'envie de travailler dans l'audiovisuel? Il me semble que tu as un frère qui est là-dedans aussi, non?
Ouais, en fait, mon petit frère Thomas, avec qui on a voyagé énormément... Lui, il navigue aussi bien que moi en kite. Il aurait pu faire les compètes comme il voulait, mais il n'a jamais été très compétition et il était plus artiste dans l'âme. Et il aimait déjà beaucoup l'audiovisuel aussi. Moi, j'avais fait un petit master de photographie en Espagne aussi. Et mon petit frère, lui, en Espagne, il avait fait une école de cinéma pendant un an. Il a fait une école des beaux-arts aussi. Et puis après, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait voyager ensemble et kiter ensemble.
Ah, génial!
Et du coup, je l'ai présenté à l'organisateur du Kiteboard Pro World Tour, la Coupe du Monde de Kite. Ils ont bien accroché. Et du coup, Thomas, mon petit frère, a commencé à travailler pour les compétitions en tant que caméraman. Donc, on voyageait partout ensemble et lui, il filmait. Et de temps en temps, il pouvait naviguer le soir et tout ça. Donc, il est toujours resté connecté à ce sport. Et ensuite, après lui, il est parti à un moment, il a eu besoin de faire sa route aussi. Il est plus reparti sur la peinture. Il a fait les Beaux-Arts en France pendant 5 ans quasiment.
Ah oui.
Et là, ça fait 8 ans maintenant qu'il peint tous les jours. Et il vient de faire une résidence en Chine. Il est vraiment… c'est sa vie, quoi. Du coup, j'ai même pas envie de dire son métier parce que c'est plus un…
Ouais.
C'est vraiment un artiste, quoi. Il peint tous les jours, il fait du parapente et du kite et il est heureux, quoi. Donc ça, c'est top.
Ah, génial.
Ouais, donc du coup, avec lui, j'avais déjà un petit pied dedans parce qu'on a fait un DVD ensemble et puis on faisait plein de vidéos comme ça, un peu artistiques où on essayait pas de se démarquer, on était juste nous-mêmes et du coup, on faisait des choses un peu différentes à l'époque. Mmh. Et en 2010, quand j'ai décidé d'arrêter les compétitions de kite, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux continuer de voyager, de faire du kite, de rencontrer des gens, de m'enrichir intérieurement et de grandir aussi spirituellement. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve une petite recette. Et je me rappelle, j'avais un mur dans ma chambre et j'avais marqué ce petit papier avec tout ce que je viens de te décrire là. Et puis à un moment, ça m'a fait, attends, il faut que je fasse des émissions de télé, en fait, il faut que je fasse des documentaires, il faut que j'aille rencontrer des gens. Et du coup, j'avais un agent, j'ai toujours un agent, mais...
Oui, j'ai vu sur ta page.
Du coup, qui m'a présenté une productrice. Et cette productrice, elle a commencé à me guider parce qu'elle a vu quelques petites vidéos que j'avais du coup autoproduites. Et elle m'a demandé, lors de mes voyages, de rentrer à chaque fois en Europe avec des petites pastilles. Et un jour, j'étais en Chine faire un voyage où je devais rester une semaine et je suis resté 2 mois. Et j'ai filmé là-bas, auto-filmé, autoproduit un petit doc. Et en arrivant à Paris, elle l'a présenté à une chaîne. La chaîne a adoré. Du coup, ils m'ont donné carte blanche pour faire un premier documentaire de 52 minutes officiel pour la chaîne Voyage, une petite chaîne sur le câble.
Et du coup, ce premier docu, tu as été réalisateur ?
Non, en fait, il y avait un réalisateur avec nous, mais moi, j'étais... En fait, le concept de ce premier documentaire, c'était que le film allait s'auto-construire au fur et à mesure qu'on allait vivre les choses. Et même le réal avec qui je travaillais, il se tirait les cheveux. Il ne comprenait pas, en fait, notre vibe. En fait, je dis notre parce que j'ai invité mon meilleur pote sur le tournage et c'est lui qui habitait déjà au Mexique. On est parti au Mexique. Il m'avait dit, Antoine, je vais te concocter un petit voyage de malade au Mexique, tu vas halluciner. Et il a mis tous les rêves, tous les trucs qu'il aurait eu envie de faire. Et moi aussi, je lui ai dit un peu ce que j'aurais aimé voir là-bas. Et du coup, on a mélangé tout ça ensemble et on est parti tourner un vrai documentaire qui est passé ensuite à la télé. Et grâce à ce documentaire, il y a une autre productrice, Carole Lambert, qui m'a remarqué et qui cherchait à l'époque quelqu'un pour remplacer Arthur de Kersauzon avec qui il travaillait sur La Quête des Vents. Et ils m'ont demandé si je voulais reprendre le flambeau et présenter cette émission. Et du coup, j'ai dit OK. D'ailleurs, j'étais en Nouvelle-Calédonie quand on a eu notre premier call. Et c'est rigolo. C'est plein de petits signes comme ça. Ouais. Et après, on est parti. Ouais. Ça, c'était il y a 8 ans maintenant. Et du coup, on a fait 16 documentaires de 52 minutes, donc dans 16 pays différents, pardon. À chasser les vents les plus emblématiques du monde, des vents qui portent des noms, ça s'est appelé la quête des vents, et c'est vraiment là où j'ai commencé à décoller et j'ai fait mes armes pendant pas mal d'années grâce à ces documentaires, et ça a été dingue.
Parce que du coup, ça a duré combien de temps ?
Ça a duré 2 saisons, sur 2 ans.
Au total, 16 épisodes.
Ouais, 16 épisodes. Et ensuite.
Et c'était des 52 à chaque fois ?
À chaque fois, des 52 minutes, ouais.
Ok, des gros projets.
Ouais. Et là, ils sont vendus un peu partout dans le monde. Ils repassent souvent sur TV5 Monde. Ouais. Souvent, je reçois des petits messages. Je ne sais pas si tu as l'occasion de voir. Regarde, il y a peut-être quelques extraits. On a fait une quête des vents à Nouméa sur les Alizés.
Je l'ai vu hier sur ton site. J'ai rigolé avec Benjamin et Robert.
Non, ça,
C'est chouette, c'est chouette.
C'était vraiment
chouette. Ensuite, tu as enchaîné d'autres types d'émissions, non ? Dernièrement, j'ai cru voir que tu avais fait Green, c'est ça ?
Oui, avant Green, en fait, après avoir fait la quête des vents pendant 2 ans, d'ailleurs, qu'on est en train de relancer, on va faire une quête des vents 2.0, là, ça va être génial. Mais avant ça, après la deuxième saison, enfin, en fait, c'était la quatrième, parce que moi, j'ai repris les deux dernières. Après la quatrième saison de la quête des vents, on est parti sur une nouvelle émission, donc avec Eric Capitaine, qui est l'auteur de la série, et Carole Lambert, la productrice de Windy Prod. On est parti sur une nouvelle émission qui s'appelait L'ère du temps, où on allait rencontrer.
Ok, ouais, j'ai vu.
Ça, on allait. On a fait pareil 8 documentaires en une saison, où on est parti en Chine, au Japon, au Costa Rica, au Brésil, en Argentine, au Rwanda, et je ne sais plus où, peut-être en France aussi. Et on partait rencontrer des gens qui améliorent leur qualité de vie en vivant en harmonie avec la nature, sans faire de mal à la nature. Du coup, c'est un tour du monde des initiatives positives écologiques, mais de manière très positive. Ça a été vraiment hyper formateur aussi. J'ai appris plein de choses. C'était génial.
Ouais, j'imagine.
J'étais plongé avec les hamas. C'est des femmes au Japon qui vont nettoyer les fonds marins et en même temps récupérer des algues pour cuisiner ensuite, mais du coup, elles font ça d'une manière très, une manière traditionnelle qui en fait,
très yogique.
Très yogi, et puis surtout, elles font ça depuis des générations. Mm. Et leur mère, à l'époque, elle plongeait nue. Aujourd'hui, elles ne font plus ça, mais c'est hyper beau. C'était assez incroyable. Après, il y a tellement d'exemples, je pourrais te parler de plein de petites anecdotes.
J'imagine.
Mais donc, l'ère du temps, ça nous a bien. Ça nous a permis de vraiment parler d'écologie de manière positive. Et ensuite.
Donc, à chaque fois, ton rôle, toi, c'est présentateur, animateur ?
Ouais.
Ou t'as plus de...
J'incarne le documentaire, en fait. Et du coup, le voyage se fait un peu en me suivant. On a une ligne directrice. Il y a pas mal de recherches qui sont faites depuis la prod à Paris. Puis ensuite, moi, j'ai quand même un côté très spontané. Du coup, il y a des allers-retours entre le Réal et moi. Et du coup, on trouve toujours à peu près un juste milieu. Et puis, au final, ça se fait un peu naturellement. Mais là, ensuite, après avoir fait l'air du temps, on est parti sur Green. C'était juste après le Covid, donc on ne pouvait pas voyager partout comme on voulait. Donc, on a décidé de faire la Réunion, la Guyane française et la Polynésie, enfin Tahiti. Et ça, c'était l'année, il y a 2 ans. Là, ça va sortir. Mm-hmm. C'est sorti sur Ushuaïa Télé et ça va sortir là, pendant le mois d'août, sur TF1. Donc, je suis hyper content. Là, il va y avoir un peu plus de visibilité. Ça va être cool.
C'est clair, trop bien.
Et après avoir fait ce Green, on s'est dit, bon, on va faire... Donc, moi, j'ai proposé à ma productrice, juste avant de partir sur la Ocean Race, de faire un documentaire en même temps où on s'arrêterait sur les stop-overs les plus longs et qui soit un peu une continuité de Green. On voulait faire un Green 2 et au final, on a eu l'idée de faire un documentaire qui s'appelle Blue. Vu les océans, l'océan. Mmh. Et on a fait 3 épisodes aussi en Afrique du Sud quand on est arrivé de la 2e étape, ensuite au Brésil après avoir fait la longue étape de 35 jours et en Italie après l'arrivée, la grande finale. Donc voilà, ça c'est
top. Il y a Céline tout à l'heure sur Instagram nous demandait est-ce qu'on peut avoir des liens s'il vous plaît. Alors sur le site d'Antoine, il y a quelques extraits sur ta chaîne YouTube également, mais où est-ce qu'on pourrait les rediriger les gens qui souhaiteraient voir des épisodes de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Si vous avez TV5 Monde ou Ushuaïa Télé, vous pouvez regarder ce que j'ai fait. Ouais. En fait, il y a avec les droits télé, on peut pas les mettre en replay comme ça tout de suite. Mais il y a quelques sites qui les remettent en replay, notamment en Espagne. L'ère du temps, ça s'appelle El aire de los tiempos.
Ah oui, j'ai trop rigolé parce que c'est doublé. Ta voix, elle est doublée et tout, c'est trop drôle.
Ouais, non, c'est doublé partout, un peu dans le monde. Et du coup, en Italie, c'était l'ecologista vagabundo. J'avais une voix italienne, c'était assez rigolo.
Ouais, c'est trop drôle, ouais. Mais, ouais, c'est clair.
Mais ces documentaires, il faut regarder sur Internet. Je pense qu'en cherchant un peu, il y a moyen de trouver... Il y a des replays sur le site d'Ushuaïa, je crois. Mais c'est des replays qui restent pendant 3 mois.
Et après... Pas longtemps. C'est comme sur Arte.
Ouais. Mm-hmm. Donc, regardez sur Internet. Après, si vraiment quelqu'un veut le voir, je peux envoyer un lien privé. Mais c'est pas top de faire ça.
En fait, oui, mais non.
En fait, je pensais que je te parlais qu'à toi. Donc, si tu veux regarder, je peux t'envoyer tout à toi. Mais en fait, j'ai pas le droit de partager des liens qui sont privés.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, j'imagine que des idées comme ça, t'en as encore plein d'autres. Finalement, depuis toutes ces années, t'es resté fidèle ou à ton équipe? C'est toujours la même boîte de production?
Oui, on a fait un peu le tour du monde ensemble depuis 8 ans maintenant.
C'est top.
Et on continue.
Des gens qui sont basés à Paris.
Oui, des gens à Paris qui sont incroyables. Eric Capitaine et Carole Lambert, je les remercie énormément parce qu'on a travaillé ensemble de manière assez... Enfin, on a découvert le monde, découvert plein de pays ensemble et on a travaillé, mais tout ça toujours dans une ambiance plutôt cool. Et on est raccord sur vraiment notre vision de la vie, on est raccord sur nos valeurs.
Ouais, c'est vachement.
Et ouais, c'est hyper important. J'ai énormément appris grâce à eux. Donc je leur dois énormément. Et puis on continue. Là, on vient de tourner un dernier épisode en Italie. Et puis on est déjà en train de repartir, comme je te disais tout à l'heure, sur une quête des vents numéro 2, enfin 2.0. Et puis, et puis après Green et Blue, il va y avoir d'autres couleurs. Je ne peux pas encore en dire plus, mais.
Ah oui, génial, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée de partir là-dessus.
Voilà.
Chouette. Alors moi, j'aimerais aller dans plus de détails, mais ça ne va pas intéresser d'autres gens que nous au niveau réel, documentaire, présentateur, etc. Mais on va passer à un autre sujet qui est tout aussi passionnant. Tu viens de compléter un tour du monde en voilier avec ta participation à la Volvo Ocean Race en tant que médiaman. D'abord, bravo. Moi, vraiment, j'adorerais faire ça. Sache donc que tu es une inspiration pour moi et puis une source de motivation. Tu sais, quand on dit oh, « il me donne envie », ouais, carrément. Comment c'était et comment t'as fait pour décrocher un contrat comme ça?
Merci. Maintenant, en fait, j'ai rien fait. C'est venu naturellement. Et dans ma vie, en général, je ne fais pas grand-chose. Ouais. Mais par contre, j'envoie de l'énergie constamment dans une direction. Et les portes que j'ouvre, en général, c'est des portes que j'avais envie d'ouvrir. Et du coup, après, bah, y en a certaines qui s'ouvrent vraiment et qui ouvrent sur d'autres portes encore derrière. Et du coup, là, pour la Ocean Race, c'est parti il y a 2 ans et demi de mon pote Thibaut Vauchel-Camus, qui est un skipper sur le trimaran solidaire en peloton avec que j'ai rencontré quand j'étais ado via notre club de voile des Rosaires à côté de Saint-Brieuc, en Bretagne. Et Thibaut, un jour, il m'appelle, il y a 2 ans et demi ou 3 ans maintenant, j'étais en Bretagne, il me fait « Antoine, est-ce que tu veux venir faire un tour sur mon bateau ?» Je convoie le bateau de Saint-Malo à Saint-Quay.
Cette vidéo est sur Internet, si vous voulez la voir.
Ouais, cette vidéo est sur Internet. Ouais. Et du coup, j'ai fait une mini petite vidéo avec ma GoPro entre Saint-Malo et Saint-Quay, Portrieux. C'était à peine 2 heures de nav ou un truc comme ça, ou 3 heures. Et après, à la suite de ce petit trip, Thibaut allait convoyer son bateau entre la Bretagne et la Grande Motte pour aller faire des RP là-bas. Ouais. Et il m'a demandé si je voulais l'accompagner pour convoyer le bateau et faire une petite vidéo en même temps. Et du coup, je lui ai dit « Ok, pas de problème, je viens, ça m'intéresse. » Faire un petit tour le long des côtes françaises, portugaises, espagnoles et puis ensuite la Méditerranée, ça me disait bien. Et là, on a navigué pendant 6 jours ou 7 peut-être. C'était mon plus long voyage sur un bateau comme ça qui va aussi vite.
Attends, j'ai j'ai ma mère qui est avec moi. T'inquiète. Maman, tu peux me donner le câble de mon téléphone, s'il te plaît? J'ai bientôt plus de batterie. Moi aussi, tu vois. Ouais. On est des bavards, c'est pour ça.
Coucou à ta maman.
Ma mère qui te salue. Hein. Ouais, c'est clair. C'est un podcast familial, Olivier.
Ouais, coucou. Ça va?
Ouais, donc en fait, c'est drôle. C'est parti vraiment de... Bah de cette opportunité que tu as eu de naviguer avec Thibaut et puis voilà quoi.
Après c'était pas juste voilà parce qu'en fait derrière
les liens se sont faits dans la suite.
Les liens étaient déjà faits avec Thibaut et on savait qu'on s'entendait bien au niveau du boulot. Il a aimé mon travail et derrière il y a le Pro Sailing Tour est né. En fait c'est un circuit des trimarans Ocean 50. Donc, c'est la classe de bateau avec laquelle Thibaut navigue.
OK.
Et du coup, dès la première année du Pro Sailing Tour, ce Pro Sailing Tour a eu besoin de médiamans sur les différents bateaux qui allaient participer.
Ah, OK. Donc, tu as déjà commencé par ça.
Et donc, en fait, j'ai fait une première saison pour le Pro Sailing Tour sur le bateau de Thibaut en tant que reporter embarqué.
Mais c'était en France, ça, non?
C'était en France et dans les Canaries, en France, Canaries, et on a été aussi en Corse la deuxième année, et on a été aussi en Angleterre. Mais en tout cas, et donc c'était déjà un premier vrai travail en tant que reporter embarqué parce que c'était pour Canal+. Donc en fait, on a produit une série pour Canal+ qui s'appelle Ocean 50, je crois. Et du coup, c'était pour moi assez engagé après avoir fait 2 petites vidéos avec mes GoPro sur le bateau de Thibaut.
Ça, c'est sûr.
De partir sur un vrai projet.
Ah oui, donc la vidéo que j'ai vue où tu pilotes un drone, c'était bien après en fait.
Ah ça, c'est bien après, ouais. Le drone, c'est venu après. Mais donc voilà.
Où tu te mets à l'eau en kite.
Ah non, ça, c'était pendant le convoyage.
Quelqu'un d'autre qui le filmait. Oui. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui t'a filmé.
C'est un copain à moi. Quand on est passé à côté du Puerto, là où j'habite, à Cadiz, j'avais dit à un pote, demain matin, on arrive à telle heure, viens nous filmer avec ton drone.
Génial.
Et passe sous le bateau, on va faire une image qui fait un peu, qui va faire un peu le buzz. Quoi. Ouais. Du coup, le mec, il est venu, Thomas, et il a fait une superbe prise de vue. Enfin, voilà. Donc voilà, 2 ans de Pro Sailing Tour et un des équipiers de Thibaut, c'était Louis Viat. Louis Viat, c'est l'ancien team directeur, manager de l'équipe de Boris Herman, de la team Malizia. Et Louis.
Ah oui, d'accord.
Donc Louis, le super pote de Thibaut aussi, qui l'aidait de temps en temps en tant qu'équipier, qui travaillait déjà pour Boris Herman, quand il m'a rencontré, il m'a dit « Antoine, peut-être que je te rappellerai un de ces quatre, parce que Boris cherche un reporter embarqué un peu avec ton profil différent. Vu que tu es à moitié allemand, peut-être que ça peut matcher. Viens à Vannes le rencontrer. Il y a le bateau qui est en train d'être construit et puis tu verras ce qui se passe. » Et un jour, je suis parti à Vannes, j'ai rencontré Boris et ça a matché direct. Et pendant 6 mois, j'ai suivi l'évolution de la construction du bateau. Donc ça, c'était dingue parce que j'ai vu vraiment comment on construisait un IMOCA aujourd'hui. Et j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un IMOCA avant de partir sur le... Enfin, je savais ce que c'était, ce que j'avais suivi le Vendée Globe. Mais je n'avais pas vu depuis les prémices, depuis la construction jusqu'à l'arrivée des foils. Et les premières sorties, les premiers entraînements... Et donc, du coup, pendant 6 mois, j'étais un peu à mi-temps avec l'équipe Malizia et ils m'ont demandé d'être avec eux à 100% pour la Ocean Race qui a commencé en janvier cette année et qui a duré 6 mois jusqu'à...
Et à part l'expérience que tu avais eue donc, sur les multi 50 qui se résumaient à des naves journalières, comment ça marchait?
En multi 50, il y avait quand même des défis 24 heures, voire 48 de temps en temps.
Ok. Ouais. Ok, donc tu avais quand même déjà des expériences de nuit en mer et de navigation au large.
Ouais. Et puis après, je m'étais quand même toujours énormément intéressé au matériel avec lequel on a fait tous nos documentaires partout dans le monde. Les réals avec...
Oui, non, mais là, je parlais... Ouais. Moi, le défi, vraiment... Enfin, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'adorerais faire ça. J'en ai les compétences en tant que marin et media woman, mais quand même... Ouais. La Volvo Ocean Race, ça envoie du lourd. Ouais. Enfin, au niveau physique, le mal de mer, les bateaux, ça craque, ça tape dans tous les sens, c'est violent.
Ben en fait, violent. Avant de partir, il y a Thibaut qui m'a appelé justement, Vauchel Camus, qui est un super grand marin, un grand navigateur, extrêmement reconnu et respecté de toute la scène. Ouais. Scène française, et qui m'a dit « Antoine, t'es sûr de faire ça là ?» Parce que c'est engagé là quand même. Et là, ça m'a mis un petit doute, mais en même temps, je me suis dit « Attends, si tu me dis ça, t'es mon pote. » En fait, je sais pas s'il l'a fait consciemment ou pas, mais ça m'a piqué un peu. Et du coup, je me suis dit « Bon, bah ok, maintenant, moi, c'est tout ou rien. » Et à la team Malizia, j'aurais bien dit « Je fais tout ou rien. Sinon, ça vaut pas la peine pour moi de faire la Ocean Race. » Et en fait, j'ai tenu... parce que je voulais vraiment aller au bout, en fait, parce que je savais qu'en allant au bout, j'allais me surpasser, j'allais m'habituer finalement au rythme, j'allais trouver quelque chose de fun aussi à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui s'est passé. Parfois, il faut forcer un peu les choses pour arriver derrière à une sensation de bien-être et à un petit état.
Au début, c'était dur. Au début.
Au début, c'est dur. Au début, tu vomis et tu te demandes ce que tu fous là, mais après, ça va.
Oui, parce qu'en plus, il faut que tu restes à l'intérieur, que tu fasses tes montages, enfin quelque chose qui vraiment est très dur à faire quand tu es malade, de te concentrer sur un ordi, moi je me souviens de Pierre Bourras, que tu connais peut-être.
Ouais, grave, Pierre, super sympa. Ouais.
Voilà, qui était le caméraman et le photographe de ma traversée de l'Atlantique en planche à voile, et il était malade, c'était sa première traversée de l'Atlantique, et donc à l'intérieur, je le voyais dans sa cave, là, en train de traiter les photos, les images, oh là là, je compatissais, quoi. C'est vrai que c'est pas facile comme exercice.
Non, c'est vraiment un des métiers les plus durs du monde, je pense, mais...
Surtout qu'en plus, tu n'as pas le droit de toucher aux écoutes. Enfin, tu n'as pas le droit de donner de coups de main.
Non, du coup, c'est un peu frustrant parfois parce que je m'étais dit ouais, ça aurait été vraiment top de pouvoir aussi aider un peu les navigateurs. Mais en même temps, j'ai déjà tellement à faire entre les images, l'importation dans les différentes cartes, les montages, le traitement des photos, l'envoi ensuite par les satellites qui prend une photo. Et puis, c'était 2 vidéos par jour plus 10 photos. C'était énormément de contenu. C'était un truc de dingue. Du coup, d'un côté, c'était bien parce que ça me maintenait, tu vois, avec une petite mission à faire par jour. Et d'un autre côté, c'était l'enfer parfois parce que t'as pas tout le temps envie de filmer. Et puis, t'es dans un petit espace qui, au final, ça se répète un peu. Mais... finalement, chaque jour est différent. Et puis, tu apprends à connaître vraiment les marins avec qui tu navigues. Tu deviens vraiment... tu lis une amitié spéciale. Et puis, au final, ça devient presque une petite famille. Et au final, il y a des émotions. Et au final, les couleurs changent chaque jour. Et puis, toi aussi, tu avances. Donc, sur la carte, tu n'es pas au même endroit. tu te rends compte de la taille de la planète, de la fragilité des climats, des océans, ouais, des courants. Et en fait, il se passe plein de choses. Et puis, ta journée, en fait, elle passe assez vite, finalement. Et après, une fois que tu chopes ton rythme, bah, tu es content de toi après avoir envoyé tes deux petites vidéos et tes 10 photos par jour, en fait. C'est une petite satisfaction qui te maintient tu vois, bien, quoi, en forme.
Ouais. Au final, c'est 3 mois de navigation ?
Au final, on a navigué 105 jours.
Ok, pour être précis. Bien. Mais tu re-signes pour la prochaine ou ouais, ça te plairait ?
Tout le monde me demande. je suis capable et ça me plairait, mais je ne peux pas le garantir à 100%. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans ma vie. Ouais, souvent, oui, tu vois, moi, je me laisse un peu emporter par les différents projets. Peut-être que dans 4 ans ou dans 2 ans, pour la Ocean Race Europe, je serai en train de faire autre chose. Si j'ai du temps et si j'ai l'envie et que le projet me motive. En fait, là, ce qui est compliqué, c'est que je viens de faire un truc, c'est un peu le Graal du...
Ouais, ouais, c'est clair.
De la voile, tu vois. Dans, ouais. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant d'encore mieux ?
Enfin, si, enfin... Ben, alors, je ne sais pas si tu partages les mêmes motivations que moi, mais des expéditions au Groenland, avec des équipes de skieurs pro sur un bateau, enfin, tu vois, en mode expédition, il y a des trucs qui sont super intéressants.
Ça n'a rien à voir. Et ça, bien sûr que ça me fait trop envie. Et ça, je pense que je vais partir dans cette direction. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de marins exceptionnels et je pense qu'il y en a plus d'un qui serait capable de partir aussi. Du coup, j'ai accès à un monde que je ne connaissais pas avant.
Oui, grave. Oui, je pense à Aurélien Ducrot quand je dis ça aussi.
Ouais, du coup. ouais. Et tu vois, quand on faisait la race, c'était top. La Ocean Race, c'était magique. Hein, ouais. En fait, ça pousse le sport et la voile à trouver des solutions pour avoir des bateaux plus innovants, plus performants, plus green aussi d'une certaine manière. Et en même temps, par contre, et parfois c'est une petite frustration quand tu regardes sur la carte que tu passes à côté des îles Kerguelen ou de la Tasmanie ou du Cap Horn et puis que tu te dis merde, on s'arrête jamais en fait, on est toujours en train d'avancer.
Tracer,
Et moi.
Mais moi, c'est pour ça que j'ai arrêté la compétition en planche à voile parce que je m'y retrouvais pas dans l'esprit du voyage tel que je le voyais.
Bah, je comprends, ouais. Bah, en fait, il y a un moment où tu as envie de ralentir un peu et puis de garder l'essence du voyage. Et puis la vraie raison pour laquelle tu étais attiré par ce style de vie, en fait. Pour ne pas se perdre, il faut rester fort. Il ne faut pas forcément tout le temps aller là où il faut courir. Tu vois, donc là, j'ai couru, mais j'ai envie de maintenant ralentir, en fait. C'est pour ça que je ne peux pas encore savoir si j'ai vraiment l'envie de le refaire ou pas. J'ai l'envie et les capacités, mais est-ce que vraiment, dans quelques années, je serai là pour le faire ? Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, voilà, il va se passer plein de choses. Et avant toute chose, du repos et de la bonne humeur.
Vous êtes toutes et tous à dire la même chose quand même. Allez, embarquer là. On va se reposer. C'est vrai que ça doit bien l'éprouver. Alors, c'est très drôle. Tout à l'heure, Sacha, sur Instagram, nous posait une question. Et c'était une de mes dernières questions. Donc, ça sent bien. Je vais poser la question de Sacha que j'avais prévu de poser. Donc, Sacha dit, comment gères-tu les doutes ou les frustrations sur le plan pro. En fait, moi, ma question était assez proche. J'avais envie de savoir si tu avais vécu des couacs dans ta vie, des gros ou des petits ratés. Est-ce qu'il y en a un qui te revient en tête ? Et comment tu as fait pour renverser la situation ? On parle souvent de résilience. Le sport de haut niveau ou les épreuves dans la vie sont souvent formatrices pour ça. Comment tu fais, toi, pour te relever ? Alors, Sacha parlait plus de doutes et de frustrations, mais on est un peu dans le même chapitre.
Ouais. Ça a un tout petit peu coupé, mais je crois que j'ai bien compris la question. J'ai bien saisi le sens de ta question. En fait, des couacs, j'en ai eu plein. J'ai eu beaucoup plus de couacs que de projets qui ont abouti. Sauf que quand tu as vraiment une vision profonde de quelque chose que tu as vraiment envie de faire, tu ne sais peut-être pas vraiment comment ça va se concrétiser, se matérialiser. Mais par contre, tu sais que tu as assez d'énergie pour aller dans cette direction. Et du coup, si tu suis vraiment ton instinct et ton cœur et que tu y crois très, très fort, même s'il y a des couacs au début, il y a un moment où tu vas y arriver. En fait, là, je repense au premier documentaire. Et en fait, je me disais, j'ai envie de faire du documentaire, mais ça me paraissait un milieu tellement lointain. J'ai pas eu de télé quand j'étais petit. Je savais même pas ce que c'était que la télévision. Moi, je regardais jamais. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je suis attiré par ça? En fait, je savais que les documentaires, c'était quand même quelque chose. Pour moi, c'était un moyen d'utiliser la télévision ou l'audiovisuel de la meilleure manière qui soit, de l'utiliser pour envoyer un message positif. Donc, j'ai jamais regardé, jamais essayé de trouver le plus de gens possible à regarder ce que je fais. Ouais, j'ai toujours essayé de faire de la qualité. Et un jour, si ça doit vraiment prendre comme une fleur qui devient, tu vois, qui s'ouvre et qui devient grande, bah, peut-être que ça se fera naturellement. Et là, c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que avant d'avoir fait mes premiers documentaires, même si ça me paraissait un monde hyper lointain, à chaque personne qui me demandait, mais qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Parce que du coup, j'étais un peu entre deux eaux. J'étais après avoir fait mes compètes de kite et puis j'avais pas vraiment de travail et j'avais lâché mes études. Je disais, ah, mais je vais faire du documentaire là. J'ai un documentaire qui va bientôt sortir. Et c'était pas encore vrai, mais j'y croyais tellement que je savais que ça allait arriver. Et du coup, c'est arrivé parce que je ne lâchais rien.
Fake it until you make it.
Bah, peut-être qu'on dit ça en anglais, mais en tout cas, ça a marché parce que. Je savais déjà qu'en fait, tu peux vraiment matérialiser tes rêves. Tu peux y arriver si tu vraiment tu y crois très fort. Et peu importe le temps que ça prend, et peu importe les chutes qui vont arriver, et peu importe toutes les défaites, c'est pas grave. Il y a toujours un moment où si tu y crois, tu trouveras une route qui sera ta route. Et puis au final, peut-être que ça n'aura pas été exactement ce que tu voulais faire à la base. Mais ce que tu feras derrière, en fait, sera magique parce que ce sera quelque chose qui sera né d'une envie vraiment profonde. C'est pour ça que je parle souvent de cette vision profonde parce qu'elle est ultra importante. C'est, en fait, c'est-à-dire c'est s'écouter. La vision profonde, c'est être capable de s'écouter vraiment et de faire face à ses peurs et à toutes ses craintes et à tous ses doutes et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui? La société, elle te fait croire qu'il faut que tu fasses des études et que tu aies un boulot fixe et puis une baraque. Mais en fait, c'est peut-être pas forcément ça le chemin. Après, là, moi, je viens de m'acheter une maison en Espagne, je suis très content, c'est bien, mais c'était pas à la base juste ça que je voulais faire. Moi, à la base, mon rêve, c'est toujours de voyager, de rencontrer des gens et d'apprendre plein de langues et puis en fait de m'adapter à chaque situation et de profiter de chaque instant. C'est ça, en fait, c'est simple.
Alors, je ne sais pas si Céline a fait un lapsus révélateur, mais elle dit « magnifique physiologie, ça me parle trop, merci ». Donc, je ne sais pas si c'était philosophie ou si elle te trouve très beau. Ah.
Je pense que c'est psychologie, sûrement.
Et il y a cette forme de foi aussi, tu vois, de dire que c'est ça, tu crois tellement en ta vision que tu as confiance en la vie pour t'apporter… ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin et où tu es prêt à l'accueillir.
Exactement. Et il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un seul chemin, il y en a des millions. Regarde-toi, ton chemin, il a été dingue aussi. Tu as fait un tour du monde sur un bateau, poussé par les vents. D'ailleurs, ça s'appelait comme ça, non? Poussé par les vents.
Poussé par le vent,
Et avec ton chéri, et puis un ou deux enfants?
Deux.
Et deux enfants.
Deux enfants.
C'est quand même fou.
Ouais, une petite fille qui est née en route sur l'île de Bonaire. Donc, elle avait 2 heures quand je suis revenue au bateau.
Dingue.
Et j'ai vécu toutes mes contractions sur le bateau.
Bah non, mais c'est fou. Et tu vois, et ça marche. Et puis toi, tu te sens épanouie. Et tes enfants, j'imagine qu'ils doivent avoir une vision du monde qui est dingue.
Oui. Puis tu le disais, là, je reviens en Calédonie, je pourrais avoir tendance à être réhappée par le système de « il faut trouver un métier à temps plein, un truc un peu fixe, machin ». Et ça ne te fit tellement pas à mes rêves que je me dis « mais non, en fait, il n'y a que moi qui peux créer un truc sur mesure qui me convienne vraiment. Et tant pis si c'est irrégulier dans les sources de revenus au fil des projets, parce qu'en fait, c'est moi qui crée mon emploi à chaque fois, un peu comme toi, tu vois. » Alors là, je produis une émission qui s'appelle Femmes du Lagon pour Calédonia, une des chaînes calédoniennes, où je vais interviewer des femmes en lien avec l'océan.
Ouais. Ah, c'est top.
Ouais, carrément.
Et je peux les voir ça sur Internet?
Oui, tu peux voir le replay, vous pouvez tous aller voir si vous vouliez voir des femmes qui sillonnent sur notre beau lagon calédonien, le plus grand lagon du monde, classé à l'UNESCO d'ailleurs. C'est donc sur la chaîne Calédonia, Caledonia, et vous avez le replay Femmes du Lagon, et vous découvrirez des portraits de sportives, hydrographes, plongeuses, marins, Voilà, hop. J'ai passé et puis en plus j'ai passé mon télépilote de drone récemment pour pouvoir vraiment vendre mes images et rajouter des plans aériens en Calédonie, c'est tellement canon.
Ouais, bah oui, ça passe bien là-bas.
Ouais, carrément. Tout à l'heure, Hélène te posait une question. Elle voulait savoir si tu avais une vie de famille et comment t'arrivais un peu à allier toute cette vie trépidante au niveau pro avec le perso.
Vie de famille, ouais, en fait, je suis en couple depuis 5 ans presque maintenant et ça se passe hyper bien. On est assez complémentaires. On a des vies complètement différentes, mais en fait, on se fait vraiment du bien et du coup, Tu vois, on se donne beaucoup de liberté dans qui on a envie de devenir. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça à mes côtés, en fait, qui me pousse à vivre mes rêves et qui me supporte, en fait. Et du coup, moi, je fais un peu la même chose de mon côté sans jamais forcer les choses, en restant très naturel. Et puis, en fait, on est bien, on est juste bien. Mais après, mes parents aussi sont hyper importants pour moi. Du coup, cette maison que j'ai achetée en Espagne, c'est hyper important parce que du coup, c'est un petit cocon familial. Ils sont venus pendant que j'étais sur la Ocean Race. Ils sont venus chez moi pendant 4 mois. Et je sais que cette maison, elle est là, en fait, pour les amis, pour la famille. Et du coup, c'est vraiment plus dans cet état d'esprit-là que j'ai acheté une maison. C'était plus pour vraiment avoir un endroit où je puisse à chaque fois me ressourcer, savoir que c'est tranquille et que c'est l'énergie de tout ce que j'ai épongé, appris et emmagasiné au cours de toutes ces années de voyage. Je veux la faire un peu transpirer ici dans la maison pour que ce soit vraiment fluide, en fait, en énergie.
Apparemment, ton son a coupé sur ton téléphone, Antoine.
Ah.
Apparemment, les gens ne t'entendent pas. Si vous en réentendez, Antoine, vous pouvez nous mettre un petit message. Tu peux regarder 2 secondes.
Comment ça se passe? Non, là, j'ai coupé. Là, j'ai remis. Est-ce qu'on m'entend?
On va voir, on va continuer. Chouette. Ouais, c'est ça. C'est le doux équilibre de la vie. Mais tant qu'on est connecté à ce qu'on veut et qu'on le fait en respect avec les autres, ah oui, c'est bon, apparemment. Okay. Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne.
Cool.
Bon, ouais, c'est passionnant, mais ça fait bientôt 1 heure qu'on discute. Donc, je vais peut-être aller plutôt vers la fin que continuer notre interview. Non, c'est top, c'est top. Je pense que, en fait. Tu incarnes bien le message que j'essaye de passer. Moi, c'est avec du cœur, tout est possible. Peu importe ce qui se passe dans nos vies. Moi, j'ai connu la maladie à 22 ans, alors que j'étais au plus haut niveau mondial. Et je me suis adaptée pour quand même continuer à vivre mes rêves. Et puis des défis, il y en a tout au long de la vie. Donc, il faut rester centré. Grâce à la pratique du yoga notamment, sur ses racines, sur ses origines, sur le pourquoi on fait les choses et puis croire au fait qu'il y a un timing divin. Enfin, je ne sais pas si tu crois à ce truc qui se passe, les énergies voilà, qui font que les choses sont alignées au moment où elles doivent être alignées. Quoi.
Ben bien sûr, non, mais il y a des forces hein, incroyables. Nous, on n'est que des petits êtres humains et en fait, tu vois, quand j'étais sur le bateau, il y a quelques fois où j'avais des espèces de visions aussi un peu sur la vie. Et il y a une des choses, d'ailleurs j'avais écrit un petit truc où je me suis vraiment dit qu'en fait, on est nous, êtres humains, on est nature, c'est la terre qui nous a donné la vie. Et du coup, tout ce qu'on croit qu'on fait nous en tant qu'êtres humains, on croit que c'est nous avec nos petits égos, mais en fait, c'est pas nous. C'est la nature qui nous a fabriqués, donc tout ce qui est fabriqué derrière, ça a été fabriqué à la base par la nature. C'est elle qui nous a donné cette chance de pouvoir... respirer, voir, sentir, toucher, goûter et ça à chaque instant. Et souvent on l'oublie dans nos vies ultra rapides qu'en fait on est juste des témoins de la vie. Tous les jours on peut juste s'amuser à respirer, à regarder le ciel, à sentir des fleurs et à rigoler, tu vois, en fait à sentir bien pour qu'il y ait de la bonne vibration. Quand on dit bonne vibration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'envoies des vibrations. C'est-à-dire qu'en fait, et tu reçois et tu es sensible à ces vibrations. Quand il y a quelqu'un qui arrive avec un énorme nuage au-dessus de lui, hyper stressé, tendu, bah, tu le ressens, mais aussi tu ressens aussi la joie. Et du coup, bah, moi, j'ai choisi d'aller dans cette direction un peu plus positive. Mais comme beaucoup de gens, au final, on est, j'ai l'impression quand même, en fait, sur Terre, tu vois, soit tu te concentres sur les idées un peu négatives et noires, soit tu vas un peu plus dans le positif et dans la lumière. Et si tu choisis d'aller dans la lumière, bah, même si bien sûr qu'il y a des moments où ce n'est pas toujours hyper facile, si tu es habitué à transformer les choses dans quelque chose de positif, tu peux trouver cette force, même dans un, même dans un moment dur. Du coup, je pense que c'est une belle solution pour avancer sereinement et puis en fait à prendre de l'âge et à profiter aussi de chaque instant et différemment. Toi, tu as dit qu'à 22 ans, tu as eu ton problème. Maintenant, tu as un défibrillateur, c'est ça ?
Ouais, c'est clair.
Et au final, aujourd'hui, bah, ça ne te freine pas, ça t'a ouvert d'autres portes au final parce que tu t'es écouté différemment et peut-être que ça t'a même plus centré sur vraiment qui t'avais envie d'être à 100% pour ne pas passer à côté de ta vie en fait, tu vois.
Carrément. Et pour rebondir sur Sacha qui nous demandait comment tu gérais tes doutes et tes frustrations, je trouve que c'est très intéressant ce que tu soulignais, qu'on croit souvent qu'en fait on maîtrise tout, qu'on contrôle tout. Et je pense que cette capacité à se dire qu'en fait, on ne maîtrise pas grand-chose.
Non.
Qu'on est juste, comme tu dis, aligné avec ce qu'on est, on vibre ces énergies-là et la vie nous les renvoie au moment où on en a vraiment besoin. Et donc, du coup, quand, par rapport à la frustration, peut-être se dire que ce n'était pas encore le bon moment, quoi. Et les doutes, se dire que... Voilà, il n'y a rien qui pourra nous changer du terreau dans lequel on pousse, en fait.
Non, mais les doutes, on en aura tout le temps, tous les jours, et les craintes aussi. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup lu un philosophe, un guide un peu spirituel qui s'appelle Thich Nhat Hanh. C'est un Vietnamien, un moine.
Je connais pas
un moine vietnamien. Et du coup, il dit d'embrasser même ses craintes, embrasser ses peurs et savoir qu'elles sont là, présentes en nous. Et leur dire, non, mais vous inquiétez pas, en fait, je suis conscient que vous êtes là. Maintenant, vous pouvez repartir tranquillement. Et c'est juste un moment qui passe.
La dernière question de ce podcast.
Vas-y.
Podcast qui s'appelle Oleti. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie. Pour qui ou pourquoi éprouves-tu le plus de gratitude aujourd'hui ?
Pour la vie, tout simplement. Avoir la chance de pouvoir profiter de belles personnes au quotidien et en même temps d'avoir une petite touche naturelle aussi grâce à nos passions ou simplement en marchant tranquillement dans la rue. En fait, tout le monde peut le faire. Je pense qu'en fait, on est tous connectés à la même chose, à la vie. Et du coup, pour moi, être conscient qu'on est en vie, qu'il n'y en a qu'une pour le moment, mais qu'il y en aura peut-être d'autres par la suite, ça dépend un petit peu de nos croyances. Mais en tout cas, profiter déjà de celle-ci au maximum, ça, c'est déjà, je pense, le plus beau des cadeaux. Et de se dire qu'en fait, peu importe ce qui va arriver, j'essaie de donner le meilleur à chaque instant, tu vois. J'essaie de tout faire avec du cœur. Et puis en fait, peu importe ce qui arrive, ce sera bien. Ça va bien se passer.
Merci beaucoup, Antoine. Dans le prochain épisode d'Oleti, c'est une aventurière qui explore la banquise avec son stand-up paddle que nous allons découvrir. Elle s'appelle Ingrid Ulrich. Est-ce que tu la connais, Antoine ?
Je ne la connais pas, mais je regarderai aussi avec
beaucoup d'attention. C'est très passionnant. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté jusqu'ici, merci. Et si vous souhaitez entendre des passionnés masculins, féminins, des océans au micro d'Oleti, surtout n'hésitez pas à me faire vos propositions sur les réseaux sociaux ou par mail ou même en commentaire sur la plateforme d'écoute que vous écoutez maintenant. Oleti, namasté. Merci Antoine.
Merci à toi. Ciao. Salut Sarah.
Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est certainement parce que tu l'as bien aimé. Si tu veux soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou la plateforme de ton choix. C'est super simple, va sur l'application Apple Podcasts ou Google Podcasts, cherche Oleti. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner, puis glisse tout en bas jusqu'à la rubrique évaluation et avis. Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles, 5 de préférence parce que mon travail le mérite bien, non ? Dis-moi aussi pourquoi t'écoutes Oleti, quel impact a ce podcast sur ta vie. Merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace, c'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous, à la semaine prochaine !